Bon, ça prend pas la tête à Papineau pour savoir que les châtiments corporels, la violence psychologique ou autre laissent des traces psychologiques chez un enfant importantes. Y a quelqu'un qui vient de faire une étude que je trouve intéressante, qui vient de sortir dans la revue Biological Psychology, et c'est Madame Valérie Labuissonnière-Ariza. Elle est docteure en psychologie et c'est la première auteure de l'étude parue dans cette revue-là, qui nomme les retards atteints par nos enfants qui ont été qui ont subi de la coercition. Peut-être trop forte. Alors, où tracer la ligne? C'est une bonne question. Bonjour, Madame Labuissonnière-Ariza.
Bonjour.
Vous allez bien?
Oui, ça va très bien, merci.
Oui, mais je suis content d'entendre lire votre étude, enfin, en partie. Il y avait déjà des études là-dessus qui montraient que des pratiques parentales coercitives étaient déjà liées à la dépression, au suicide, puis à certains troubles mentaux. Certains troubles anxieux, peut-être.
Oui, tout à fait. Donc, c'est important de préciser que, l'étude, c'est pas juste mon étude, là, c'est tout un groupe de chercheurs. Donc, effectivement, on sait que la maltraitance dans l'enfance est associée à des conséquences négatives psychologiques à l'âge adulte. Puis on sait aussi que des formes un peu plus bénignes, si on veut, entre guillemets, telles que les pratiques parentales coercitives, sont aussi associées à des risques accrus, là, comme vous dites, de troubles anxieux, de dépression et de suicide. Par contre, on ignorait jusqu'à tout récemment si ces pratiques-là étaient aussi associées à des changements dans le cerveau. Donc, docteur Françoise Maheu, ma directrice de thèse, c'est elle qui a eu l'idée originale de l'étude. Elle-même et moi-même, on a cherché à voir, dans le fond, c'était quoi les effets sur le cerveau de ces pratiques-là.
Il faut lier, Mané, parce que là, les parents, je vois venir les appels tout de suite, les parents vont dire « Oui, mais je fais quoi, là? Mon enfant fait un mauvais coup, j'enlève son PlayStation, c'est-tu trop violent, c'est-tu... » Alors, on connaît l'idée est très reçue un peu partout dans le monde, puis même au Québec, à laquelle je suis complètement opposé. « Ah, une petite tape, c'est fesses, c'est... » Moi, je vois pas une différence entre une fesse et une épaule. À partir du moment où tu frappes un enfant, tu frappes un enfant. Et ça laisse des traces d'anxiété, mais même sans être neurologue, je peux très bien comprendre ça. J'ai travaillé avec des enfants comme ça, je viens un petit peu de ça aussi. Donc, je comprends qu'un enfant qui n'est pas en sécurité, parce qu'il a peur de se faire frapper ou il a peur de se faire infliger ou de se faire hurler après ou de se faire dévaloriser, t'es un maudit pas bon à répétition, ça fait mal aussi. Je comprends qu'un enfant comme ça va développer de l'anxiété. Je comprends très bien aussi qu'au niveau adulte, on s'en débarrasse pas. Mais moi, je réfléchis au niveau humain ou c'est pas au niveau neurologique. Vous autres, votre étude est neurologique.
Tout à fait, oui.
Donc, vous parlez des amygdales à un moment donné, qui sont reliées au cerveau.
Oui, exactement. Donc, en fait, c'est ça. Ce qui est important, c'est important de distinguer vraiment entre la maltraitance comme telle, donc les cas de DPJ, puis les pratiques parentales coercitives, comme décrites dans notre étude. Donc, nous,
c'est quoi ces pratiques-là? Quelles sont les pratiques coercitives que vous dénoncez?
Alors, ce qui était mesuré dans notre étude, c'était par exemple les questions, là, c'était à quel point les parents, à quelle fréquence les parents étaient très fâchés lorsqu'ils punissaient leurs enfants, à quelle fréquence ils avaient tapé leur enfant, élevé la voix ou crié ou grondé ou utilisé des punitions corporelles. Donc, c'est quand même des pratiques qui sont très rudes envers l'enfant, mais ces enfants-là, c'est important de préciser qu'ils n'étaient pas victimes d'abus. Donc, on s'est vraiment...
Non, mais ce que je viens de comprendre, par exemple... de ce que je viens de comprendre dans ce que vous me dites, c'est que vous me parlez de colère. Je vais vous dire, moi, je connais la colère. C'est à un tel point que là, faut pas que je le dise à mes boss, si, mais quand je pratique la colère, admettons, il y a vraiment une raison de me fâcher puis de dire ça suffit. Je le fais jamais quand je suis vraiment en colère parce que ça, je vais faire un éclat, ça n'a pas d'allure. Alors, je calme toujours mon affaire, Puis je vais revenir une fois calmé pour dire là, ça, ça n'a pas de bon sens. Puis là, j'ai peut-être pas un ton agréable, mais il n'y a pas de danger de meurtre pour personne. Alors, oui, j'ai appris à gérer ça. Est-ce que les parents devraient apprendre peut-être à punir leurs enfants une fois leur colère passée? Voilà, c'est ça ma question pour vous.
Ah, ben ça, tout à fait. Ben d'abord, oui, c'est pas nécessaire d'être... en fait, c'est plutôt négatif d'être en colère lorsqu'on punit l'enfant parce qu'on peut plus perdre le contrôle. Et puis, il y a d'autres façons là, de réprimander l'enfant ou de si on veut, l'amener à faire ce qu'on veut, à ne pas faire ce qu'on veut pas, que la punition aussi. Mais ce que, là où je voulais en venir, là, c'était que notre étude portait vraiment sur des pratiques qui sont très courantes et qui sont pas considérées comme l'abus. Et on voit quand même qu'il y a des changements au niveau du cerveau. Donc, ça suggère que c'est pas si inoffensif qu'on le pense, là, ces pratiques-là.
Est-ce que ça a été difficile de trouver des parents pour faire ces études-là?
Ça n'a pas été tellement difficile parce que, ma directrice de thèse, Dr Maheu, avait reçu des subventions pour ce projet-là et on a collaboré avec le groupe de recherche sur l'adaptation psychosociale à l'enfance qui avait deux études longitudinales, donc c'est un bassin d'un peu plus de 2000 enfants qui étaient suivis depuis la naissance et qui étaient habitués de participer à toutes sortes d'études. Et qui avait répondu à des questions justement sur les pratiques parentales depuis la naissance jusqu'au moment de l'étude. Donc, ils avaient entre 13 et 16 ans, pardon. Donc, on avait déjà pas mal d'informations sur ces jeunes-là et on a recruté notre échantillon parmi ces deux cohortes-là. Là. Ils étaient assez réceptifs, je dois dire.
OK. Je vais juste vous expliquer un peu ce que je faisais, moi, généralement, avec mon fils. Mon fils lirait, à un moment donné, je lui dis « arrête de lire ». Je lui dis « quand t'es en colère ou pas d'accord avec quelque chose, tiens ton bout. » Devant tes profs, ton directeur, ta mère, ton père, j'aurais peut-être pas dû dire ton père, mais en tout cas, j'ai dit, tiens ton bout, mais du moment que ça fait du sens, écoute ce qu'ils disent aussi. Si eux autres font du sens, écoute-les aussi. Fait que j'ai eu un enfant avec qui j'ai absolument pas de trouble. Il était, mais il voulait comprendre. Je vais vous donner un exemple. Maman, je vais te coucher. Il dit pourquoi? C'était pas pourquoi pour dire gna 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 puis je vais m'ostiner jusqu'à après demain matin. C'était, il voulait comprendre pourquoi il fallait qu'il se couche. Ben moi, je dis, ben parce que je t'ai vu souffrir à matin, puis j'aime pas ça de voir souffrir, t'en arraches trop quand tu te lèves le matin. Ah, ça faisait du sens s'il se couchait. Mais ça aurait pas fait sens s'il serait défendu. Est-ce que vous recommandez l'explication avec la punition pour qu'on comprenne bien que ça sert à quelque chose, puis que c'est pour faire progresser l'enfant, pour qu'il vive mieux, pour qu'il soit plus heureux, et non pas pour le dévaloriser?
Mais tout à fait. En fait, on voit de plus en plus apparaître des courants là, de ce qu'on appelle le positive parenting en anglais, là, donc le parentage positif. Donc, c'est vraiment d'aller plus dans l'explication avec l'enfant. Comme vous dites, aller avec des récompenses, des bons comportements. On met des limites, évidemment, mais justement, on explique à l'enfant pourquoi, puis c'est des conséquences naturelles au mauvais comportement. Donc, t'as pas voulu te coucher, mais t'es fatigué le lendemain. Puis le soir, ben comme vous dites, on réexplique à l'enfant pourquoi c'est important de se coucher tôt. Donc,
il faut que son éducation fasse du sens dans son esprit à lui. C'est comme ça qu'on élève un enfant, je crois.
Oui, je pense que c'est... il y a toutes sortes de façons d'élever un enfant, mais c'est effectivement, à mon sens, ce qui est préférable pour l'enfant, là, que ce soit de la collaboration plutôt que de la coercition.
Oui. En 1999, la proportion des parents qui pensaient que la fessée était une méthode efficace pour éduquer un enfant, c'était de 12% chez les mères et 16% chez les pères. Donc, les mâles semblent plus agressifs chez les humains. Et en 2018, au moins ça a baissé, c'est 4,4% chez les mères versus 5,7% chez les pères. Les pères sont plus portés à donner la fessée.
Il semblerait, oui, selon ces données-là. Ça, c'est de l'Institut de la statistique du Québec, je pense.
Oui, mais, c'est l'Institut de la statistique du Québec.
Oui, ben il semblerait que oui. Nous, notre étude, par contre, c'était les pratiques parentales coercitives maternelles principalement parce que c'était le parent qui était le principal répondant pour l'enfant qui répondait au questionnaire. Donc, notre étude porte exclusivement ou presque, à quelques exceptions près, sur les pratiques maternelles. Mais effectivement, selon plusieurs études, ça semble que les pères ont plus tendance à être d'accord avec ce type de pratique-là.
Oui, je comprends. C'est
Mais
étonnant,
heureusement, ça diminue pour les deux, comme vous pouvez le voir, là, ça semble diminuer là, avec
Donc,
le
on semble
temps. Là.
chercher d'autres solutions. Il me semble qu'il y a toujours d'autres solutions à la violence. Il y a évidemment des parents qui disent « Ben oui, mais il fait le bacon, il hurle par terre. » Ben justement, il me semble que de le frapper, c'est pas une façon de le calmer à ce moment-là. Mais bon, je comprends. C'est pas simple élever des enfants non plus, parce que ça vient chercher dans nos fêlures à nous, des fois. Je veux dire, nos enfants, là, s'ils veulent taper dessus le tinaire, ils savent exactement c'est où. Alors, c'est peut-être très relié à la patience des parents et à la colère des parents. C'est peut-être de là que va venir un peu plus de réflexion. Je vous remercie. D'abord, je vous remercie de votre étude. Et puis, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. C'était Madame
Ça m'a fait plaisir.
Madame Valérie Labuissonnière-Ariza, qui est docteur en psychologie et premier auteur de l'étude paru dans la revue Biological Psychology. Maintenant, je veux vous entendre. Est-ce que vous pensez que vous avez été trop loin avec vos enfants quelquefois? Puis on s'entend que c'est trop loin selon vos propres critères. On va en jaser. J'aimerais ça vous entendre au 514-790-9850 ou le 1-866-790-9850. On prend vos appels. Je trouve... Après la pause... On revient. Il y a une étude intéressante qui est sortie, on vient d'en parler, sur les répercussions dans le cerveau de nos ados peut-être des moyens coercitifs que les parents ont avec leurs enfants. On en a tous eu un peu à un moment donné. Ou les punitions excessives. Évidemment, la violence, on sait que ça fait des dégâts, ça prend pas tête à Parisot, comme dirait l'autre. Alors, ma question à vous, les auditeurs, c'est je voudrais vous entendre. Est-ce que vous êtes allé déjà trop loin avec vos enfants? Puis trop loin, c'est selon vos critères. Fait que je veux entendre vos critères quand vous me parlez. Alors, vous pouvez m'appeler au 790-9850 ou en dehors de Montréal, c'est le 1-866-790-9850. On prend vos appels, puis on commence par Sylvain. Salut, Sylvain.
Salut, Dan. Je vais être un habitué.
Ben, je suis content de
t'entendre. Bon job. Ah, ben, des bons sujets.
T'es bien fin, je te remercie.
Écoute, moi, je suis un gars de la DPJ, je suis un gars de la rue, j'ai été brassé jusqu'à l'âge de 12-13 ans, mes parents sont divorcés, parce que je ne veux pas compter toute ma vie, mais c'était très, très violent, mon histoire de jeunesse. Mm-hmm. Puis bon, ben, je me suis mis à faire du sport, de la boxe, sorte d'affaires pour essayer sortir ça, là, tu sais, genre,
me découvrir quelque part.
Tu comprends?
Oui.
Puis, bon, je parlais avec la réceptionniste, et moi, t'avoue que je ne sais pas, je suis pas marié, j'ai pas d'enfant, là. Je ne sais pas, Dan, si j'aurais assez la patience pour avoir des enfants.
C'est une question qu'on se pose. Hein. Il y a eu la violence aussi chez nous, puis je sais que bon, j'ai beaucoup bu une partie de ma vie. Là. Ça fait presque un quart de siècle que c'est fini. Mais moi, j'ai refusé d'avoir un enfant tant que je n'étais pas sobre. Je me trustais pas. Alors que c'est idiot, même sous, j'avais jamais eu d'envie d'être agressif avec un enfant. Je parle pas de le battre, là. Je parle juste d'être agressif ou de lever la voix. Ben, j'ai eu dans ma vie des blondes qui avaient des enfants, particulièrement une avec qui j'ai passé des années. Puis j'étais plutôt tenté sur l'explication. Mais je me trustais pas. Il y avait quelque chose derrière ma tête qui me disait « Tant que t'as pas arrêté de boire, t'as pas d'enfant ce matin, ça arrête comme ça. »
Moi, c'est sûr que j'ai fréquenté des femmes qui avaient des enfants, puis je m'attachais beaucoup aux enfants. Les enfants s'attachaient. J'avais le tour avec ça. Mais moi, avoir des enfants, avoir la patience d'avoir des enfants, je le sais pas. Et je vais t'avouer que c'est pas parce que j'ai peur d'être violent ou quoi que ce soit. Au contraire, je suis pas gâteau avec les enfants des autres. Mais les miens, c'est sûr que c'est merveilleux d'avoir un enfant. Là, je comprends tout le monde qui a des enfants, puis c'est incroyable. Mais moi, par rapport, je sais pas, j'arrête des backflash par rapport à mon enfant. Si mon enfant commençait à faire des crises ou ces trucs-là, tu sais. Je ne sais pas. Je vais t'avouer, je m'interroge là-dessus.
Ben, c'est parce que moi, je suis à l'âge d'être grand-père. Je ne suis pas encore, je disais à mon fils de ne pas trop se presser.
Il n'est pas si vieux que ça, quand même.
Oui, 61 ans. C'est assez pour être grand-père. Ça, je trouve ça intéressant de l'aider. Mais je disais à mon fils de ne pas trop se presser. Mais l'avantage d'être grand-père, c'est parce que tu as tous les avantages d'avoir un enfant. Tu as toute la tendresse. Tu peux jouer avec. Tu as du fun. Tu peux faire plein d'activités. Puis, à un moment donné, il arrive le moment donné où, quand sa couche est pleine, tu leur donnes au père 15, t'as toi, arrange-toi. Alors, ce qu'on peut pas faire quand on est parent, faut changer la couche nous-mêmes. Alors,
c'est des pleurs, les nuits, oui. C'est plein de trucs quand il grandit.
Sentiment d'impuissance, des fois. Quand par exemple, notre bébé pleure, puis on n'arrive pas à le faire arrêter, puis ce que ça vient chercher chez nous, des fois, l'impuissance peut créer de la colère. Hein? C'est ça qui...
Tu as mis le doigt, Dan, sur quelque chose de très important. Tu as parlé de sentiment d'impuissance. Est-ce que je suis équipé avec une enfance dégueulasse pour être avec un enfant, avoir des enfants? Je ne le sais pas. Ça, c'est un point très important. Est-ce qu'il y a des couples au Québec qui sont équipés pour des enfants? Ouais, regarde la violence sur les enfants, les DPJ, puis ces trucs-là.
Non, mais c'est évident que pas tout le monde. Mais toi, je t'écoute. OK, je ne suis pas un expert. Je suis un musicien. Faut prendre, c'est la vie d'un musicien, ça vaut ce que ça vaut. Moi, je pense que tu serais...
T'as du vécu, t'as du vécu.
Mais moi, je pense que tu serais doué avec les enfants. C'est mon impression. Merci, Sylvain, d'avoir appelé. T'es bien fin. On passe à Marc. Marc, j'ai voulu prendre un appel alors que je dois aller à la pause. On a vraiment une petite minute.
Ouais, je vais aller très rapidement. Moi, je voulais savoir cette valeur, votre invité imparti. Je veux savoir, c'est possible quand tu parles à un enfant, mettons, lui expliquer ton geste violent, puis que tu peux effacer cette cicatrice. Dans le sens que, je me rappelle, mon petit gars, il avait 2 ans, puis sa mère, tu fais quelque chose. Puis moi, ma réaction, c'était de lui donner une tape sur les fesses. Okay? Puis là, je m'en suis voulu, je me suis senti mal. Pourquoi j'ai fait ça? Okay? Je vais aller vite. Je sais pas si on peut revenir. J'ai parlé à mon petit gars, j'ai dit, écoute, papa, j'ai dû pas faire ça. Puis j'ai parlé plusieurs fois de cet événement-là.
Ce que je comprends.
Je l'ai oublié, papa, inquiète-toi pas.
Oui, c'est très gentil. Puis souvent, les gestes qui ont traumatisé nos enfants, c'est pas ceux qu'on pense. Merci beaucoup. Au retour, on a notre Frédéric Savard, International & Co. & Co. & Bross & Bross, qui arrive après la pause.